Eh bien donc, il m'est choix de présenter notre oratrice de cet après-midi, donc Madame Malika Bastin-Hammou, qui est professeure de lettres classiques, plus spécifiquement de grec, à l'Université de Grenoble. Je lui ai demandé de s'interroger sur ce qui, pour beaucoup d'entre nous et pour beaucoup de gens dont c'est le métier, doit être défendu, à savoir l'enseignement des langues anciennes et en particulier du grec. Madame Bastin-Hammou s'est spécialisée donc en grec et plus encore dans l'étude du théâtre grec, en particulier du théâtre comique, puisqu'elle a écrit son travail de thèse sur Aristophane. Mais elle s'intéresse aussi au théâtre grec, non seulement pour l'étudier en lui-même, en le replaçant dans son contexte d'origine, mais elle s'intéresse également à la réception du théâtre grec. Qu'est-ce qui fait que nous jouons encore Aristophane, par exemple, et les autres ? Là, il faut se plonger dans l'étude précise des textes des auteurs de la Renaissance qui ont expliqué, déjà édité, puis expliqué, commenté et parfois joué, enfin, mis en scène, ces œuvres du théâtre classique grec. Il me semblait donc qu'elle était parfaitement bien choisie, si j'ose me faire mon propre éloge ici, pour nous traiter de la réception possible, actuelle, de la culture grecque ancienne. Donc, la question que je lui ai posée, que je lui avais posée, et à laquelle elle ne répondra d'ailleurs que de manière indirecte, c'est faut-il vraiment sauver les études classiques, ce que l'on appelle classiquement justement les humanités. Si oui, comment ? Si oui, comment le faire ? Et au fond, puisque mon idée directrice de cette année, c'est que ne mérite d'être sauvé que ce qui est lui-même salutaire, sauveur, sauveteur, sauvegardant, comme on voudra dire, en jouant sur les mots, les humanités ont-elles la possibilité de contribuer à sauver ce qui pourrait mériter en nous de l'être. Donc, je lui cède la parole.
Mesdames les académiciennes, messieurs les académiciens, mesdames, messieurs, je tiens tout d'abord à remercier Monsieur Bragg de me donner l'occasion, dans ce lieu prestigieux, de parler d'un sujet qui m'est cher et peut-être trop cher pour que je puisse le traiter sereinement. Vous en jugerez. Cette communication est donc une réponse à une sollicitation. Le titre n'est pas de moi, mais m'a été aimablement proposé par M. Bragg, qui m'a suggéré de traiter ce sujet en l'assortissant d'une double recommandation. Ne pas être en posture de militante et éviter les lamentations. Pour éviter, pour sortir de cette aporie, et après m'être assurée de son accord, je vais m'efforcer de ne pas être en posture de militante et m'interdire les lamentations, mais je ne vais pas répondre à cette question parce que je n'ai pas de réponse à y apporter, ou plutôt pas plus que chacun d'entre nous qu'elle concerne. Oui, elle nous concerne tous, je crois, à divers degrés. Je me propose donc, pour éviter ce double écueil qui a suscité depuis bien longtemps et continue de susciter cette question, d'examiner son histoire. Depuis quand et comment ont été formulés les discours sur le salut des études classiques ? Quels arguments ont été avancés ? Quand ? Par qui ? Ont-ils évolué ? Certains ont-ils disparu ? D'autres ont-ils émergé ? Quelles sont les raisons de ces permanences et de ces évolutions dans les discours sur la sauvegarde des langues anciennes ? Je me concentrerai sur la question du grec ancien, parce que c'est mon domaine, celui que je connais le moins mal, parce que celle du latin a été davantage étudiée et parce que la question du salut du grec est plus prégnante encore, je crois, que celle du latin dans la France d'aujourd'hui. Si le latin était la langue de la pensée jusqu'au XVIe siècle, voire au XIXe siècle en Occident, le grec a fait un retour au XVe, un retour partiel, fragile, toujours menacé, mais aussi toujours défendu, avec des arguments divers. Je m'y intéresserai ensuite à la manière dont la question du grec s'est posée et se pose encore en France, car il y a dans notre pays une spécificité du grec ancien qu'il faut interroger. En France, en effet, le grec est moins étudié que le latin, ce qui n'est pas le cas, ou moins, dans d'autres pays européens, notamment réformés, où le latin et le grec sont à égalité. Pourquoi cette subsidiarisation du grec par rapport au latin ? Une de mes hypothèses, c'est que la question du salut du grec ancien, ou pour le dire autrement, de la menace qui pèse sur lui, et de la nécessité qu'il y aurait donc à le sauver de cette menace, est constitutive de la discipline grec ancien en France. Ce qui fait sa faiblesse fait aussi sa force. On le défend d'autant plus qu'il est plus menacé. Il y a une véritable rhétorique de ses défenseurs qui court à travers les âges et qui est donc bien rodée, qui fait partie de la force de cette discipline quand d'autres, plus récentes, moins systématiquement attaquées, sont toutes désemparées quand elles font l'objet d'attaques. Faire du grec, cela ne va pas de soi et cela en devient même un argument de distinction. Ne parle-t-on pas en français d'helléniste distingué ? Une expression qui, je crois, n'existe pas dans d'autres langues et qu'il faudrait également étudier de plus près. Cela rend parfois difficile de distinguer qui sont les véritables défenseurs du grec et ses authentiques ennemis. Ainsi, l'idée répandue chez certains défenseurs, qui ne sont pas forcément des hellénistes, qu'il faut le défendre coûte que coûte, même s'il ne sert à rien, précisément parce que c'est un luxe, représente-t-elle, je crois, un danger pour cet enseignement. Le danger d'être protégé parce qu'il est menacé et non pour ce qu'il nous apporte et ce à quoi il nous donne accès. Certaines institutions, ainsi le sanctuarisent, sont plus interrogées sur ses finalités. Inversement, les attaques peuvent venir des rangs même de ceux qui le maîtrisent le mieux. Paul Venn déclarait ainsi « Il vaut mieux apprendre l'anglais que le latin et le grec » ou encore, à propos de leur enseignement dans le secondaire en France, « L'enseignement du latin est comme un reste de moignon, cela n'a aucun sens. » Prenons soit un retour à l'enseignement des langues anciennes à grande échelle, tel qu'il était pratiqué chez les jésuites, à haute dose, ce qu'il reconnaît d'ailleurs impossible aujourd'hui, soit la création d'un institut où on les apprendrait une fois adultes, en 3 ans, comme cela se fait pour les langues orientales, par exemple. Défendre le grec coûte que coûte est presque aussi dangereux, me semble-t-il, que les attaques répétées dont il fait l'objet, y compris dans les rangs des spécialistes. Comment le sauver de Charybde et de Scylla ? Alors, sûrement pas en se bouchant les oreilles, on saute d'un épisode à l'autre, peut-être en regardant la Méduse en face, et en analysant ces métamorphoses à travers les siècles. Bien sûr, la question du salut du grec ne peut pas faire abstraction de celle des humanités, et plus spécifiquement des études classiques qui sont en crise, et cela ne vaut pas que pour la France. En témoigne la présence continue du terme de « salut » qui vous intéresse cette année, dans différentes prises de position plus ou moins récentes. L'association « Sauver les lettres », le débat outre-Atlantique qui se donne pour mission de « Save the classics from whiteness », ou encore l'association « Sauvegarde des enseignements littéraires ». Mais de qui ? De quoi faudrait-il sauver les humanités, les études classiques et plus précisément le grec ? Et puis, quand ? Inscrire cette question dans le temps, dans la longue durée, devrait nous permettre, je crois, d'y voir un petit peu plus clair pour envisager l'avenir de manière informée. Alors, je ne suis pas la seule à m'intéresser à cette question qui a été abordée par d'autres, dont j'ai lu les travaux et qui m'ont inspirée. Je ne citerai que les plus importants, la thèse de Nancy Maury-Lascou, travaille notamment sur les programmes du grec ancien en France au XXe siècle, l'ouvrage de Pascal Hummel, Des lingua graeca, histoire, l'histoire de la langue grecque, ou encore Françoise Vaquet, cette fois pour le latin ou l'empire d'un signe, la thèse de Pascal Cibois, l'enseignement du latin en France, une socio-histoire, ou encore l'ouvrage de l'inspectrice générale Anne Armand, didactique des langues anciennes. Qu'appelle-t-on grec ancien aujourd'hui ? Et qu'est-ce que faire du grec en France aujourd'hui ? C'est d'abord, que ce soit dans le secondaire ou à l'université, faire partie de cours à petits, voire tout petits effectifs. Le grec peut s'apprendre en option, à partir de la troisième, le plus souvent de la seconde, et à l'université, également en classe préparatoire, littéraire, très rarement scientifique. On y apprend à traduire, en vue notamment des épreuves de concours. Il y est fortement articulé à d'autres disciplines, notamment dans le secondaire, comme le français, mais aussi l'histoire, les langues vivantes, dans une moindre mesure les sciences. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. L'histoire du grec et de son enseignement en France commence véritablement au XVIe siècle. Il y a certes des poches où on le lisait auparavant, comme l'abbaye de Saint-Denis. Le Moyen-Âge est en fait le temps d'un oubli général du grec, inavoué, si ce n'est dans l'expression « graecum est non legitur », qu'on trouve en mention marginale de certains manuscrits médiévaux. Ce n'est qu'à la fin du XVe que les humanistes français comme Guillaume Budet s'efforcent d'apprendre le grec et de promouvoir son enseignement dans le contexte d'un engouement d'abord italien puis européen pour la redécouverte de l'Antiquité. Cet enseignement est d'abord privé, dispensé par des Grecs byzantins émigrés comme Georges Hermonyme de Sparte, voire autodidacte à l'ère de grammaire byzantine, comme celle de Chrysoloras ou de Théodore Gazin. Il est ensuite pris en charge par des latinophones, François Tissard, l'italien Jérôme Aléandre, qui a enseigné le grec à Paris après le départ de Tissard, et puis à partir de 1530, grâce à l'insistance de Guillaume Budet et de son réseau, est créé par François Ier le Collège des lecteurs royaux, qui ont pour mission d'enseigner les disciplines que ne propose pas l'université. Parmi eux, deux lecteurs royaux de grec, deux d'hébreu et un de mathématiques, avant que la liste ne s'allonge. Cette période de l'émergence puis de l'institutionnalisation des études grecques s'accompagne d'une prolifération de discours en leur faveur, en France et ailleurs, portés par les humanistes. Ce sont des discours enthousiastes, militants, parfois marqués par une certaine mauvaise foi, qui ne défendent pas un enseignement existant, mais qu'il s'agit de promouvoir et de développer. Ils se construisent contre des ennemis passés et contemporains, le Moyen-Âge et la scolastique, qui sont d'ailleurs volontiers caricaturés. Pascal Hummel date de 1543, le premier de ses discours de défense du grec, et je cite, un genre rhétorique ou littéraire directement lié à l'institutionnalisation progressive de l'enseignement classique, dans lequel les arguments sont presque toujours les mêmes. Ce genre de la plainte ou de l'apologie continue d'être pratiqué aujourd'hui. Les arguments développés sont relativement constants et d'un intérêt somme toute limité. Alors je partage en partie le constat, mais je crois que l'intérêt, ces arguments ne sont pas si constants qu'ils pourraient y paraître et qu'ils sont au contraire d'un grand intérêt. David Amert a récemment fait remonter encore plus haut la date de ses discours de défense du grec, jusqu'en 1504, on est au tout début de l'imprimerie du grec en fait, date de la leçon inaugurale de Scipione Fortegheri, un helléniste proche du grand imprimeur vénitien de textes grecs, Aldemanus. Que dit Fortegheri ? Bien, ces arguments sont toujours présents aujourd'hui, d'autres en revanche ont complètement disparu et peuvent même sembler assez loufoques. Pour lui, le grec est utile pour accéder aux textes fondateurs de différentes disciplines et plus généralement à une culture supérieure. Ensuite, les arguments ne sauraient suffire. Il faut remonter à la source, ad fontes. Enfin, c'est une langue plus facile qu'il n'y paraît. Ça, c'est une ruse de pédagogue assez classique. On trouve là beaucoup d'idées qui seront reprises dans les apologies qui suivront jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut d'emblée souligner que le grec est alors défendu parce qu'utile. Un argument que l'on retrouvera, mais aussi qu'on le retrouve encore aujourd'hui et qui a été en fait assez vite retourné. Il faut défendre le grec, précisément parce qu'il ne sert à rien. En tout cas, à rien d'immédiat. C'est l'argument du grec comme luxe. Très vite, en effet, on retrouve ce type de discours sous d'autres plumes, et notamment en Europe du Nord, où l'engouement pour l'Antiquité, et plus particulièrement pour le grec, se développe à son tour. Avec, en 1518, Petrus Mosellanus, qui va dans sa leçon inaugurale, lui aussi, eh bien, souligner l'intérêt du grec, mais mettre en avant son importance pour la théologie. Même argument chez Conrad Gessner, en 1543, dans la préface à son dictionnaire latin-grec. Non seulement le grec est essentiel à la théologie, mais en plus, il est supérieur au latin. Ainsi, quand les Italiens faisaient certes la louange de la langue grecque, mais en soulignant sa proximité du latin, la proximité du latin et du grec, et donc la facilité qu'il y aurait à apprendre le grec, en Europe du Nord, on met en avant la supériorité du grec sur le latin, qui est un disquipulus du grec. L'argument de l'utilité est donc toujours présent, mais avant tout parce qu'il permet d'accéder à l'écriture. La critique des traductions est aussi présente, l'idée d'une spécificité de la langue grecque également, mais cette fois dans un rapport de hiérarchie avec le latin, favorable au grec. Qu'en est-il en France ? Cet argument de la supériorité du grec sur le latin se retrouve dans le discours du grand helléniste et imprimeur français Henri Estienne, qui lui aussi, en pédagogue militant, s'efforce de montrer que la langue grecque n'est pas si difficile que cela à apprendre, en tout cas qu'on pourrait le craindre, notamment pour les Français. Il développe en effet dans son traité sur la conformité du langage français avec le grec en 1569 l'idée que la langue française est particulièrement proche de la langue grecque et qu'elle en descend pour ainsi dire directement. Parmi ces exemples, on trouve l'expression « skolenago », « j'ai le loisir », ben voyez, c'est la même chose en français et en grec. Le français, donc, viendrait directement du grec, et le grec serait au français ce que le latin était à l'italien. Cette idée, qui peut paraître loufoque aujourd'hui, s'inscrit plus largement dans une occidentalisation, voire une désorientalisation de la Grèce et du grec, et une appropriation par les nations observable dans les différents pays d'Europe, qui élabore alors des presses et un enseignement du grec. Cela passe notamment par une prononciation qui va peu à peu s'émanciper de la prononciation byzantine. Ce qui est également commun à ces premiers hellénistes, c'est leur enthousiasme de pionniers et leur rejet unanime des traductions comme seul moyen d'accès à la culture grecque. Savoir le grec, c'est d'abord connaître une langue intimement pour remonter à la source, d'où la nécessité qu'il y a à développer son enseignement et des presses ad hoc. Enfin, ils partagent le souci de démontrer la compatibilité des auteurs païens avec la foi chrétienne. Les humanistes développent toute une rhétorique pour défendre l'étude de ces textes en les christianisant. La plupart des premières éditions des auteurs grecs répondent ainsi par avance à cette question, à cette critique, en l'anticipant. Les Grecs sont des chrétiens qui s'ignorent. Mais le grec n'est pas seulement la langue d'auteurs païens, c'est une langue sacrée. Et c'est ce qui fait son intérêt, mais aussi ce qui la désigne comme dangereuse. Elle permet certes de remonter à la source des Écritures, mais partant de contester les versions canoniques. L'intérêt pour le grec en vient alors à être associé à la contestation luthérienne, « qui graecis habent, luterianis habent », écrit le jésuite Bobadilla à propos du Paris des années 1530 où il est venu apprendre le grec. En 1545, le Concile de Trente consacre l'autorité de la Vulgate contre la lecture de la Bible en grec ou en hébreu, et depuis, dans les pays catholiques, le grec est moins étudié que le latin. Les hellénistes sont moins nombreux, mais ils n'en sont pas moins revendicatifs, tout au contraire. Et le grec, à la différence de l'hébreu, va avoir droit à un enseignement scolaire piloté par les jésuites. S'il est moins enseigné que le latin, il est perçu comme la source des écrits latins. Il est présenté non comme une langue parmi d'autres, mais comme une langue donnant accès à une culture, des connaissances que les traductions ne sauraient transmettre. L'helléniste humaniste est donc la plupart du temps à la fois un helléniste, un enseignant, un imprimeur, en tout cas proche des milieux de l'imprimerie, et quelqu'un qui a des idées assez précises sur ce que doivent être l'éducation et la transmission des savoirs. Erasme en est un exemple bien connu, qui donne la priorité parmi les savoirs à l'apprentissage des langues. Mais pas n'importe lesquelles, pas toutes. La priorité va au latin et au grec de manière conjointe. C'est cette vision qui l'emporte en France, à côté de celle qui aurait pu aussi l'emporter, plus encyclopédique d'un Rabelais. On se souvient que Pantagruel recommandait l'apprentissage de, je cite, la langue grecque, bien sûr, secondement la latine, puis l'hébraïque, puis les saintes lettres, et la chaldaïque, et l'arabique, pareillement. L'hébreu ne connaît pas le même sort que le grec, il est réservé aux spécialistes, sur un modèle proche de celui que souhaite Paul Venn pour le grec et le latin aujourd'hui. En France, donc, le latin et le grec enseignés conjointement suffisent. Ce sont ces enseignements qui vont dominer. Et même si l'idée que le grec est la source, cette idée perdure, il est nettement en retrait par rapport au latin du point de vue de l'enseignement. Il s'inspire des préconisations d'Erasme, selon qui il faut commencer par la grammaire, en mémorisant, en allant à l'essentiel, en pratiquant la conversation et l'écriture, en lisant aussi, bien sûr, les auteurs. Lucien, Démosthène, Hérodote pour la prose, Aristophane, Homère, Euripide pour la poésie. Et puis, en traduisant du grec au latin, du latin au grec et en imitant. Le grec devient aussi une matière scolaire et passe dans les programmes des collèges jésuites et autres collèges après. La Ratio Studiorum des jésuites de 1599 précise le contenu et les méthodes de cet enseignement. Quelle place y tient le grec? Comment son enseignement est-il justifié? On trouve deux arguments en faveur de l'étude scolaire du grec, qui dominent en tout cas. On retrouve celui de la source, si la littérature latine est centrale, elle a pour source les auteurs grecs, mais on voit aussi apparaître un nouvel argument lié aux polémiques religieuses. Il ne faudrait surtout pas laisser le grec aux réformés. Ce modèle domine le système éducatif français jusqu'à la Révolution. Il est cependant régulièrement l'objet d'attaques extérieures et de tentatives internes d'évolution. Je passe maintenant donc de ce modèle humanisme jusqu'à la Révolution, qui est une période de lente désaffection. Dans la période qui suit, et qui va de la fin du XVIe jusqu'à la Révolution, l'enseignement du latin et du grec sont bien installés en France, mais le grec est dépendant du latin, il connaît une lente désaffection, contre laquelle ses défenseurs luttent en reprenant certains arguments élaborés par les humanistes et en en avançant de nouveau. Les deux langues, en effet, ne sont pas à égalité. Cette défense vient soit de l'intérieur du système des collèges jésuites, par exemple avec le père Jouvency, ou de la critique de ce système, avec notamment le courant janséniste et les travaux de Lancelot. Enfin, au XVIIIe siècle, Rollin, qui admirait beaucoup Port-Royal, se désole de la désaffection que connaît le grec et le défend à son tour avec de nouveaux arguments. Jouvency, donc auteur de tragédies, d'éditions scolaires, mais qui a aussi beaucoup réfléchi à la pédagogie, s'adresse dans le Deratione Discendi et Docendi en 1703 au maître de la Société de Jésus et défend le grec en refusant de continuer à le considérer comme la langue de l'hérésie et de le laisser aux protestants et aux jansénistes. Je cite, « En conséquence, plus les ennemis de la religion se glorifient insolemment de leur connaissance en grec, plus à notre tour nous devons être ardents à étudier et à comprendre cette langue, afin qu'on ne trouve pas en nous moins de zèle pour défendre et mettre en lumière la vérité qu'ils n'en mettent pour l'obscurcir et l'ébranler. » Une autre critique de cette relégation du grec s'exprime chez les jansénistes de Port-Royal, notamment Lancelot. Sa critique passe par une réflexion sur la pédagogie du grec telle qu'elle est pratiquée chez les jésuites et par des propositions tout à fait révolutionnaires qui auront un écho important, sinon immédiat. Il les publie en 1655 dans sa méthode pour apprendre facilement la langue grecque. On retrouve parmi ses arguments, ne serait-ce que dans le titre, la rhétorique du pédagogue qui s'efforce de convaincre que sa matière n'est pas si difficile qu'elle y paraît, comme jadis Forteguéri ou Henri Étienne. Mais la grande nouveauté est que dans cette méthode, le grec, et là aussi le titre l'indique, est désormais délié du latin, car il est dispensé pour la première fois, cet enseignement est dispensé directement en français. Lancelot ne va pas jusqu'à reprendre l'argument d'Étienne pour qui il y avait une parenté immédiate entre le grec et le français, mais il publie en 1657 un Jardin des racines grecques qui vise tout autant à la connaissance du grec qu'à la connaissance du français, puisqu'il s'agit d'exposer les racines grecques des mots français. Ainsi, l'argument de la proximité entre les deux langues est recyclé. Il devient celui de l'étymologie, qui ne passe pas toujours par l'intermédiaire du latin, notamment dans le domaine scientifique. L'argument de l'étymologie, régulièrement avancé chez les défenseurs des langues anciennes, trouve ici une de ses premières formulations, un argument qui est aujourd'hui avancé encore, aussi bien pour le latin que pour le grec d'ailleurs, et qui pour le latin a abouti en 2020 à l'introduction d'une nouvelle matière ou d'une mutation de la matière latin avec le latin du français en sixième. On pourra en reparler. Lancelot propose donc de faire l'économie du latin dans l'apprentissage du grec par les français, et c'est tout à fait donc nouveau. Jusqu'alors, on passait par le latin, et on ne faisait du grec que si on avait déjà fait du latin. Ce faisant, donc, Lancelot autonomise le français, en le jugeant parfaitement capable d'être une langue d'enseignement, mais aussi le grec, qui peut donc se passer du latin. Il encourage également la mise à disposition de traductions littérales et interlinéaires, permettant à l'élève d'avancer à petits pas. C'est l'ancêtre des juxtalinéaires qui ont été si décriés, tellement développés au XIXe, tellement décriés au XXe, mais qui sont toujours très appréciés, croyez-moi, des agrégatifs. Le manuel de Lancelot ne rencontra pas le succès immédiat qu'il aurait pu avoir, mais il sera réédité avec des adaptations jusqu'en 1904. Et bien des rénovateurs de l'enseignement des langues anciennes l'invoqueront et adopteront au XIXe ces audacieuses propositions. Un troisième argument en faveur du grec, appelé un bel avenir, se fait jour au siècle suivant avec Rollin, qui fut professeur au Collège Royal, puis le recteur de l'Université de Paris. Il n'est plus désormais question de querelles religieuses ni de langue d'apprentissage, mais du voyage et du dépaysement que propose l'apprentissage du grec. Il écrit ainsi dans son traité des études en 1726 « Quiconque aspirera à la réputation de savant sera obligé de voyager, pour ainsi dire, longtemps chez les Grecs. La Grèce a toujours été et sera toujours la source du bon goût. C'est là qu'il faut puiser toutes les connaissances. » Alors on retrouve certes dans les propos de Rollin l'éternel argument du grec comme source de toute culture, mais on voit aussi émerger l'idée du voyage, cher au XVIIIe siècle, et qui est appelé à se développer. Faire du grec, c'est voyager dans le temps et donc se décentrer, se dépayser. C'est l'argument qui deviendra, mutatis mutandis, celui des défenseurs contemporains des langues anciennes qui voient dans leur étude une ouverture à l'autre et à l'ailleurs. Ça a donné aussi les voyages scolaires que prisent tant les collégiens et les lycéens. Mais une autre nouveauté chez Rollin, c'est que cette défense s'accompagne désormais, pour la première fois, je crois, d'accents nostalgiques et pour tout dire conservateurs. Ni Jouvenceau, ni Lancelot, et encore moins Érasme, ne regrettaient l'époque bénie où les élèves savaient le grec. Sans doute parce que la demande sociale recule, Rollin entonne une plainte appelée à un bel avenir, et pas seulement chez les défenseurs du grec. Ce n'est plus contre les hérétiques qu'il faut lutter, mais contre la paresse des élèves et contre leurs parents qui jugent cet apprentissage inutile. Il faut que les professeurs luttent contre ce mauvais goût devenu fort commun et qu'ils fassent de continuels efforts pour ne pas céder à ce torrent qui a déjà tout entraîné, écrit Rollin. L'appel au maître que formule ici Rollin, préfigure le militantisme et qui est aujourd'hui encore, et peut-être plus que jamais, attendu des professeurs de grec. Nos étudiants apprennent très vite qu'il faut, quand on est helléniste, en permanence se justifier de ce choix étrange. Et le métier de professeur de grec consiste, pour une part non négligeable, à justifier son existence. L'autre grande évolution que connaît la défense des langues anciennes alors, pendant le XVIIe et le XVIIIe siècle, est celle de sa moralisation, christianisation et moralisation, qui va bientôt se retourner contre elle. Cela vaut surtout pour le latin, mais dans une moindre mesure également pour le grec. Jouvency écrit « Quand vous expliquez des auteurs, faites-le de telle manière que, quoique païens et profanes, ils deviennent les panégyristes du Christ, c'est-à-dire ramener tout à la louange de la vertu et au blâme du vice. » L'Antiquité est non seulement compatible avec la religion catholique, mais elle la contient en germe et devient une propédeutique aux Écritures. Et je cite cette fois Rollin, qui explique que, comme on a coutume de se préparer au combat véritable par des exercices qui ont du rapport, eh bien, de la même manière, il faut étudier les auteurs païens pour ensuite être capable d'étudier les Écritures. On trouve ici deux arguments. D'abord, celui de la compatibilité de l'étude du grec avec la religion chrétienne, mais aussi, et c'est là aussi un argument qui va devenir vraiment important, l'idée que l'Antiquité païenne est une propédeutique. Donc ici à l'étude des Écritures, mais en réalité à toute connaissance, pas tant pour les contenus qu'elles véhiculent qu'en soi. Elles permettent une gymnastique de l'esprit, l'expression est appelée un grand avenir, qui prépare et exerce les jeunes esprits à l'acquisition d'autres connaissances et compétences. Mais alors que les humanistes ancraient l'apprentissage des langues anciennes dans l'essor contemporain d'appétit de savoir auquel elles devaient contribuer, l'âge classique et les Lumières voient cet enseignement se fermer, aussi bien sur le plan matériel, sur le modèle du collège et de l'internat, qu'intellectuel. L'Antiquité est conçue comme un corpus fermé, immuable, de textes, de règles grammaticales et rhétoriques, et donc elle participe de cette fermeture. Des voix s'élèvent alors pour critiquer ce modèle fermé, des voix qui aboutissent à la création des écoles centrales sous la Convention. D'Alembert, en 1751, s'en prend à l'enseignement des collèges, et plus particulièrement au latin. Je cite « Il me semble qu'il ne serait pas impossible de donner une autre forme à l'éducation des collèges. Pourquoi passer 6 ans à apprendre, tant bien que mal, une langue morte ?» D'Alembert propose de favoriser, au contraire, l'enseignement du français, des langues étrangères, de l'histoire et pas seulement ancienne. Les écoles centrales, inspirées des Lumières, constituent une première expérience d'éducation nationale et dans ces écoles, les langues anciennes voient leur part se réduire, concurrencées par de nouvelles matières, le dessin, l'économie. Si elles ne disparaissent pas, elles sont mises au service d'une meilleure maîtrise du français. Au modèle du collège, clos et de son internat, donc, se substitue celui de l'externat assimilé à un enseignement ouvert sur le monde. Mais ces écoles rencontrent peu de succès et au XIXe, on revient au modèle du collège. Et donc j'en arrive au XIXe siècle. Ce retour au contenu et à l'organisation des collèges que caractérise le XIXe siècle français est aussi un nouveau départ, car c'est alors que naît l'enseignement secondaire financé et contrôlé par l'État, et occupant une place centrale dans l'enseignement, entre l'enseignement primaire et l'enseignement supérieur, qui est alors extrêmement restreint et qui touche une toute petite élite. Cet enseignement s'adresse aux seuls garçons, il n'est pas professionnalisant, il a pour finalité de transmettre la culture des élites. Quelle y est la place du grec ? Il a été décrié par les Lumières, parce qu'associé au latin, qui incarne la fermeture des collèges, mais il n'en est pas moins présent dans le secondaire qui s'invente. Mais sa présence est toute relative. Il est facultatif, ne fait pas l'objet d'un programme. Peut-être parce que Napoléon s'intéressait davantage au latin qu'au grec. Très vite, cependant, il revient avec la création de l'école normale, qui deviendra l'école normale supérieure en 1845, et qui a alors pour vocation de former des professeurs pour le secondaire. Faute d'enseignants pour former ces jeunes professeurs, c'est-à-dire combien le grec était en perdition, on fait appel à un Italien qui va instruire une nouvelle génération d'hellénistes enthousiastes, militants, et si bien qu'en 1820, il devient une matière centrale, bénéficie d'horaires, de programmes dédiés, d'épreuves au baccalauréat et au concours général. Cela entre autres pour effet la prolifération de manuels, souvent inspirés de Port-Royal, avec notamment l'élaboration de textes accompagnés de leur traduction. Les exercices rois sont le thème et la version, qui changent de finalité. Le grec s'autonomise, il s'agit maintenant de tester les connaissances en grec plus que l'élégance du français. Mais les attaques dont faisait déjà l'objet l'enseignement des langues anciennes de la part des Lumières, sans doute parce qu'en partie légitimes, reprennent. Il faut renforcer l'enseignement du français, des sciences, des langues vivantes. Dans ce contexte, les sciences en viennent à incarner la raison et les langues anciennes, l'ancien régime. Elles sont alors défendues par les courants les plus réactionnaires, et le latin et le grec se trouvent investis d'un rôle de gardien de l'ordre et de la tradition, ce qui encourage un certain immobilisme dans les pratiques pédagogiques. Comme lors de la période précédente, on assiste à un renouvellement limité de l'argumentaire pour se défendre et des pratiques pédagogiques. Ces revendications de modernisation de l'enseignement et de réduction de la part des langues anciennes aboutissent en 1972 à la circulaire du ministre de l'Instruction publique Jules Simon, qui n'a rien d'une attaque en règle. Il veut juste consacrer moins de temps aux langues anciennes pour faire la place à d'autres disciplines. Mais cette réduction des horaires s'accompagne d'une injonction. Il faut, pour ne pas perdre en efficacité, renouveler les méthodes d'enseignement. Et ça aussi, c'est alors pas récurrent dans les discours de défense, mais récurrent dans les discours d'attaque, et peut-être aussi de défense d'ailleurs. En face, les défenseurs de l'enseignement traditionnel s'insurgent, et leur voix est portée notamment par Mgr Dupanloup, évêque d'Orléans. Ces vigoureux exercices qui les constituaient, les études grammaticales, le thème, la version écrite, les compositions latines, toute cette saine et salutaire gymnastique de l'esprit, ils l'abandonnent, ou à peu près, et ne lui substituent que les travaux faciles d'une préparation hâtive, faite en l'air et sans contrôle, et des explications verbales confiées à la légèreté et à la fugitive attention des enfants. Rien de bien nouveau dans cet argumentaire, et c'est sans doute une partie du problème. L'étude du latin et du grec vaut comme discipline, comme gymnastique de l'esprit, presque plus que pour les langues elles-mêmes et ce à quoi elles donnent accès. Une nouvelle étape est franchie à la fin du siècle. La question n'est plus celle de savoir comment enseigner les langues anciennes, mais s'il faut les enseigner. C'est alors que la question de la démocratie, avec laquelle l'enseignement du latin et du grec est présenté comme incompatible, passe au premier plan. C'est la question du latin, un vif débat qui a pris le nom de l'ouvrage du normalien Raoul Frari, s'attaquant vertement aux langues anciennes jugées inutiles. Ça n'est pas nouveau, mais aussi, et ce qui est les davantages, des langues donc antidémocratiques. Je cite, « L'enseignement classique ne prépare les jeunes Français à aucune profession productive. Il les pousse presque irrésistiblement aux professions libérales et surtout aux moins spéciales de ces professions, à celles qui n'exigent qu'une certaine facilité de plume et de parole. » Ils n'ont fait que des avocats et des journalistes, c'est-à-dire des politiciens. Ils les déclassent. Les défenseurs du français ne sont pas en reste, préfigurant les apôtres des lettres modernes, qui considèrent que les humanités, la culture générale, sont certes essentielles, mais qu'elles peuvent très bien se passer des langues anciennes. L'historien de la langue française, Ferdinand Bruno, associe ainsi la défense du français à la défense du progrès. L'Église, d'une part, les universités, de l'autre, au XVIe siècle, firent une opposition formidable aux partisans du français. Telles sont les attaques venues de toutes parts qui pleuvent sur les langues anciennes. Et le grec ? La question du latin, qui dépasse largement le cadre de la discussion entre spécialistes, semble avoir englobé celle du grec. Pourtant, certaines voix vont s'élever pour distinguer le grec du latin. L'helléniste Victor Bérard reprend et dépoussière le vieil argument de la supériorité de la culture grecque sur la culture latine, qui n'en serait qu'une pâle imitation. Le philologue Gaston Paris souligne l'éloignement fructueux des Grecs qui permet de faire vivre l'élève, je cite, « dans un monde très différent du sien ». C'est l'argument du voyage qu'on revoit ici ressurgir, qu'on voyait chez Rollin. Charles Bigot, très favorable à l'enseignement moderne, hostile au latin, est pourtant un défenseur du grec. Les Grecs ont été plus libres et plus hardis que Rome ne le fut jamais. La Grèce avait osé et créé, Rome n'a fait qu'imiter et traduire. Forme littéraire, système philosophique, elle n'a rien imaginé. Quelquefois, en traduisant, elle a trahi, et presque toujours, elle a rapetissé. Les arguments en faveur du grec, on le voit, ne sont pas nouveaux. Le grec est à la source de toute connaissance. Mais ce qui est nouveau, c'est le fait de les utiliser contre le latin. Le latin, lui, est associé aux jésuites, à ce qui est présenté comme une mainmise de la religion sur l'enseignement français. Le grec, au contraire, incarne une forme d'hétérodoxie. Hérétique du temps de Noël Béda, il devient laïque sous la Troisième République face au latin du Vatican et de l'enseignement privé. Et de fait, le grec est peu défendu par l'enseignement confessionnel, beaucoup moins en tout cas que le latin. Ces intenses débats aboutissent en 1902 à une profonde réforme de l'enseignement secondaire qui propose désormais un enseignement classique et un enseignement moderne, donc divisé en deux cycles, et le grec devient, sans retour cette fois, une option proposée de la quatrième jusqu'au bac aux seuls latinistes et en concurrence avec les langues vivantes. Cela se traduit immédiatement par une baisse des effectifs, quelle surprise, en quatrième, mais plus encore au lycée, et en province, plus qu'à Paris. Enfin, les lycées de centre-ville sont les moins touchés. belle démocratisation. Il n'est plus exigé qu'en licence de lettres pour les futurs professeurs. En 1920, une circulaire prend acte de cette baisse des effectifs et autorise la réduction des heures de grec lorsque l'effectif des classes est très réduit. Elle fait et continue de faire des ravages, car ce qu'est un effectif réduit est à l'appréciation des chefs d'établissement, à la merci desquels se trouvent les enseignants et les élèves hellénistes, avant que cela ne concerne d'autres disciplines, dont le latin, mais aussi aujourd'hui l'allemand, l'italien. Les défenseurs du grec, tétanisés, vont alors s'enfermer dans une attitude défensive et conservatrice incarnée par la franco-ancienne, avant que le grand bouleversement des années 70. En réaction à ce subit recul créé par la réforme de 1902, est en effet fondée en 1909 la Franco-Ancienne, une association qui réunit des professeurs de lettres agrégés de l'enseignement public, qui se fixe comme objectif de défendre l'enseignement du français et des langues anciennes. La Franco-Ancienne campe sur l'idée que la Grèce est au fondement de la civilisation et que c'est par l'étude de la langue que son héritage peut et doit être transmis. Il ne s'agit pourtant pas de défendre une culture réservée à la bourgeoisie et excluant les autres. La franco-ancienne défend le système des bourses et l'accès du secondaire à toutes les classes sociales. Mais l'enseignement se doit d'y être exigeant. Et elle s'oppose donc à tout ce qui lui semble devoir faire baisser les exigences. Ainsi, la commission Langevin-Wallon, en 1944, qui tente de créer un tronc commun au collège pour accueillir les élèves, tous les élèves avant orientation, en 6e, 5e, prémisse du collège unique, et qui repousse le latin en 4e. La franco-ancienne y voit une primarisation du secondaire. Même réaction avec la création de l'agrégation lettres modernes en 1958-59. Le français s'autonomise, là, encore plus. Ce sont non seulement les élèves qui se voient libérés de l'apprentissage des langues anciennes, mais leurs professeurs, à qui seule une épreuve de langue ancienne sous la forme d'une simple version est imposée. À partir des années 1970, cependant, si les idées de la franco-ancienne persistent, la défense des langues anciennes est surtout portée par la grande helléniste Jacqueline de Romilly, tandis que les ARELA, Association régionale pour l'enseignement des langues anciennes, prônent et mettent en pratique un renouvellement profond des méthodes pédagogiques. Jacqueline de Romilly est un pur produit de l'enseignement classique, à cela près que c'est une femme. Elle a commencé le grec en 4e, la première année où c'était possible pour les jeunes filles. Elle a remporté 2 prix au concours général, latin, grec, la première année, il était ouvert aux femmes, 1930. Elle est la première femme élue au Collège de France. Elle sera ensuite également élue à l'Académie voisine des inscriptions et des belles-lettres. Elle va prendre régulièrement position, notamment à travers ses livres. Et en 1992, elle fonde la SEL, la sauvegarde des enseignements littéraires. Mais c'est en tant que défenseur du grec qu'elle est la plus connue. Une Grèce universelle, celle du 5e siècle, d'Homère, une Grèce littéraire centrée sur Athènes. On peut résumer avec ces mots, la culture occidentale n'est que le dernier avatar de l'hellénisme. Cet argument n'est pas nouveau, mais il va connaître une nouvelle jeunesse dans le cadre de la promotion d'une culture européenne, dont le plan national de formation du 16 novembre dernier, intitulé « Europe et langues anciennes », première journée européenne des langues et cultures de l'Antiquité, qui réunissait des ministres de l'éducation de différents pays européens à Paris, et, à ma connaissance, le dernier avatar. L'argument de la culture commune, jadis outil de distinction de la bourgeoisie, est donc désormais mis au service de la réunion des peuples et des cultures. Il s'agit de construire une identité culturelle commune à tous les membres de l'Europe. À la fin de sa vie, cependant, le discours de Jacqueline de Romilly évolue. Après avoir préconisé la sélection des apprentis hellénistes et le grec comme luxe, elle en vient à défendre le grec pour tous et notamment pour les élèves en difficulté. Il permettrait de préciser les connaissances en grammaire française, c'est un terreau culturel pour fonder une culture commune et un facteur d'intégration sociale qui permet une connaissance des origines de la culture européenne et même méditerranéenne. L'ajout de la culture méditerranéenne est nouveau. Mais il perdure jusqu'à aujourd'hui, en témoigne la leçon inaugurale de John Scheid au Collège de France en 2001. Je cite « Il ne s'agit pas seulement de défendre les filières dites classiques dans l'enseignement secondaire et d'insister sur la qualité de cette formation. Le latin et le grec aident, il est vrai, à apprendre le français, à comprendre la grammaire et à raisonner. Mais soyons honnêtes, correctement enseigné, le français lui-même pourrait rendre le même service. Bon, » pas sûr d'être sûr avec lui. Mais bon. L'importance de la formation classique réside ailleurs. Parce qu'elle oblige à regarder au-delà des frontières nationales, elle constitue un accès privilégié au patrimoine culturel commun de l'Europe et au-delà du monde méditerranéen, pour peu que l'on veuille se souvenir que jadis, l'Empire romain a relié Gibraltar à la mer Noire et la Grande-Bretagne au Sahara. Dans le bouillonnement de la fin des années 60 et du début des années 70, quand Jacqueline de Romy donc, prend la relève des membres les plus conservateurs de la franco-ancienne avant d'évoluer, de nouvelles voix s'élèvent qui prônent donc et mettent en pratique un profond renouvellement pédagogique. Les méthodes qu'ils expérimentent ne sont pas en fait radicalement nouvelles. Le grec a une longue histoire d'enseignement. Mais la volonté qui anime ces professeurs et qui n'est pas si loin de celle qui animait un Érasme, un Budée, les jansénistes ou encore les jeunes normaliens qui défendaient le grec moribond dans la France de 1820, insuffle une véritable énergie à la discipline. Prenant acte des travaux de Bourdieu et Passeron, les héritiers, la reproduction, qui démontrent que les études classiques sont un outil de sélection des classes dominantes, eh bien ces défenseurs qui se veulent progressistes des langues anciennes répondent au nom même de la démocratisation. On y distingue quelques figures phares, comme le groupe de Besançon, et notamment l'helléniste Jean-Claude Carrière. Mais le mouvement est principalement collectif et porté par la base, les enseignants eux-mêmes et la province. Ils gardent une distance prudente avec la hiérarchie et l'inspection. Ce courant n'est pas sans lien avec les travaux des chercheurs, historiens, philosophes et anthropologues, plus que philologues, réunis en France au sein du groupe Louis Gernet, qui s'emploie, pour reprendre les mots de Jean-Pierre Vernant, à décoloniser la Grèce. Mais si ces idées se diffusent, la véritable rupture vient véritablement des pratiques et de la base. Les enseignants se regroupent en collectif, produisent une abondance de documents pédagogiques à l'intention de leurs collègues, des parents d'élèves, du grand public. Il s'agit de renouveler le corpus, d'articuler enseignement et recherche, de développer la formation permanente, de mettre en question les exercices canoniques aussi, de s'emparer d'outils nouveaux comme le numérique, et enfin de lire et favoriser le plaisir de lire. Ainsi, le XXe siècle voit cohabiter des courants qui ne sont pas étanches, l'un luttant pour préserver un enseignement exigeant mais rétif à la nouveauté et renouvelant peu son argumentaire, l'autre ayant pour principal argument en fait, de ne pas en avoir, mais de diffuser des méthodes et des savoirs nouveaux. Où en est-on aujourd'hui ? En 1980, Jack Lang crée la mission ministérielle sur l'avenir des études classiques en France et en Europe, reconduite par Luc Ferry et confiée à deux chercheurs, le philosophe Heinz Wissmann et l'helléniste Pierre-Judé de la Combe. Leurs travaux développent une argumentation subtile qui cherche à dépasser les contradictions, les oppositions entre anciens et modernes, et ils lient notamment étroitement l'apprentissage des langues anciennes et la culture antique et ses réceptions. Les langues ainsi, les langues vivantes, empruntent non seulement mais comportent en elles les langues anciennes. Un autre argument tout aussi nouveau est l'idée que la culture ancienne est convoquée en Europe à chaque fois que l'Europe se réinvente. Il faut connaître les œuvres, qui ne sont pas dissociables de la langue, mais il faut aussi connaître leur réception, leur réappropriation, et c'est même cette réappropriation qu'il faut mettre au centre de l'éducation pour que l'Antiquité soit une référence historique ouvrant sur l'innovation. C'est à cette condition que l'Europe pourra encore et encore, en puissant dans sa propre source, se réinventer. Enfin, l'argument de l'intégration est lui aussi renouvelé, les deux chercheurs en appelant à l'exploration et à l'enseignement des traditions diverses de l'Antiquité. Je cite, « L'Europe n'est pas la fille aînée de l'Antiquité. Les traditions juives et arabes ne sont pas moins imprégnées de cette culture qu'elles ont recomposée, interprétée. La tradition qui nous rattache à cette culture autre n'est pas qu'occidentale. Enseigner les autres formes de cette tradition est ainsi une tâche pressante à l'école. » La reconnaissance mutuelle ne passe pas par le seul respect des différences, dans une ignorance confortable, mais par la reconstruction de la genèse de ces différences issues d'un terrain historique commun. Parallèlement, il est important de le signaler, l'intérêt des historiens et des... Pardon, excusez-moi. Et donc j'en arrive à ma conclusion. Donc je conclurai en revenant sur quelques questions abordées dans cet exposé et qui me semblent particulièrement d'actualité. Le grec doit-il être solidaire du latin ? Alors, peut-être pas pour les élèves, mais quand on se destine aux lettres classiques, faut-il connaître les deux langues ? Que l'on débute le grec en troisième, au lycée, à l'université, bref, après le latin, ça n'est pas un problème, mais que penser de candidats qui n'ont jamais fait de grec et qui se présentent aux CAPES de lettres classiques parce qu'il y a moins de candidats, plus de postes, en espérant passer au travers des mailles du filet, voire compenser par une note très basse en grec, compenser une note très basse en grec par les notes obtenues en français et en latin. Que penser de candidats à l'agrégation interne de lettres classiques qui s'insurgent parce qu'ils doivent, s'ils choisissent le latin à l'écrit, passer le grec à l'oral, alors que, disent-ils, ils ne l'enseigneront jamais, ce qui est tout à fait possible. Bref, les lettres classiques, cette invention française, cette tridisciplinarité, doivent-elles continuer à exister en tant que telles, ou pour le dire autrement, la distinction entre lettres classiques et lettres modernes doit-elle perdurer ? Car que penser d'une agrégation de lettres, lettres modernes en l'occurrence, où le latin est réduit à la portion congrue, une version sèche, où il n'est pas question de littérature et où on n'en teste plus que quelques vagues connaissances grammaticales. À quel niveau faut-il enseigner le grec ? À l'université, en classe préparatoire, en master, en doctorat ? C'est un argument récurrent qui a mené à repousser toujours plus loin l'enseignement des langues anciennes. Aujourd'hui, les lettres modernes ont à peu près chassé l'enseignement du latin de leur maquette de licence, au motif qu'il serait un repoussoir expliquant la désaffection que subit aujourd'hui la filière de lettres. La situation varie beaucoup d'une université à l'autre, mais on trouve parfois du latin obligatoire, optionnel, voire pas de latin du tout. Parfois aussi, on propose un choix avec le grec. Peut-être faudrait-il revoir la place des langues anciennes dans la formation des littéraires. Parallèlement, et il est important de le signaler, l'intérêt des historiens et des philosophes pour les langues anciennes non seulement ne tarit pas, mais augmente. Et cela vaut notamment à l'université, par une demande accrue de l'apprentissage de ces langues, mais qui apparaissent ici comme quelque part des sciences auxiliaires. Cette demande ne concerne pas les humanités. Le grec, dans ce cas, n'est pas solidaire du latin et la demande n'est pas celle d'un enseignement littéraire. Elle n'est pas moins présente, forte, et se traduit au niveau de la licence par le succès des formations comme les doubles licences, lettres classiques histoire, lettres classiques philosophie, ou au niveau de master, avec des formations comme les masters de sciences de l'Antiquité. Cela a pour conséquence une nécessaire adaptation des méthodes pédagogiques qui est tout à fait bienvenue. Le problème vient plutôt du fait qu'il n'y a plus grand monde pour les enseigner, ces langues. Les humanités sont mortes, vive le latin, vive le grec ? Non. Car cette demande de connaissance des langues anciennes comme auxiliaire a également pour conséquence le fait que si elle remplit les classes et les services, elle ne permet pas d'envisager sereinement un renouvellement des enseignants susceptibles d'y répondre. Nous ne manquons pas d'élèves, nous manquons d'étudiants intéressés par l'enseignement des lettres classiques, du latin et du grec. Et cette pénurie, je le sais, s'inscrit dans le contexte d'une désaffection généralisée pour le métier d'enseignant, notamment dans le secondaire, mais les lettres classiques sont particulièrement touchées et depuis longtemps. Mais je ne vais pas aller plus loin parce que je risquerais de sombrer dans les lamentations. Donc je reviens à notre question initiale. À quoi sert le grec aujourd'hui et donc en quoi est-il salutaire ? Cela reste une discipline de distinction. Et après tout, pourquoi pas ? Pas seulement pour privilégier de centre-ville, élèves privilégiés de centre-ville, même si, quand c'est en dehors de ces lycées privilégiés, eh bien, cet enseignement repose sur les épaules parfois solides, mais néanmoins d'un petit nombre d'enseignants qui font un travail remarquable et qui mériteraient d'être davantage soutenus. D'ailleurs, quand ils quittent leur poste, souvent la section ferme. Il attire par intérêt pour l'Antiquité, c'est l'argument de l'accès à un socle de connaissances qui perdure depuis le XVIe siècle. Il est utile pour la préparation au concours, même si, par les temps qui courent, on aurait plutôt tendance à le supprimer, à le réduire, en tout cas le plus possible. L'exercice de la version y est majoritaire. Mais on assiste aussi à une demande du grec pour l'accès qu'il donne aux écritures. Et en fait, c'est de là que vient aujourd'hui le plus puissant renouvellement didactique, avec l'Académie Vivarium Novum, avec l'Institut Polis de Jérusalem. Et donc, c'est le grec de la Koiné qui intéresse ici. Enfin, le renouvellement du corpus appelle aussi de nouveaux hellénistes. Les papyri d'Égypte étudiés par Jean-Luc Fournet au Collège de France, les travaux actuellement en plein essor sur le néo-grec ancien, le grec ancien après 1453, prouvent que tout n'a pas été traduit et étudié, qu'il y a beaucoup à faire, et c'est peut-être là, finalement, ce qui justifie que l'on apprenne encore cette langue. Il y a quelques jours, le ministère a publié les chiffres du baccalauréat et des options de spécialité. Et donc, pour les langues, eh bien, il y a cette année 550 candidats qui ont choisi le latin, 250 le grec. Alors, c'est très, très peu. Mais en réalité, si on regarde la liste des autres langues, eh bien, l'italien est à 160 et l'allemand à 150. Le latin est en troisième position, après l'anglais et l'espagnol. Alors, on ne sait pas si on doit rire ou pleurer. Je n'ai pas les chiffres, ni pour le russe, et ni, voilà, pour, c'était les seules langues pour lesquelles j'ai des chiffres. Le latin concerne 3% d'une classe d'âge aujourd'hui, et le grec 0,7%. L'article soulignait, hein, c'était un entretien avec Robert Delors, le problème spécifique aux langues anciennes, qui est celui des dotations horaires. Dans le secondaire, ces enseignements n'ont pas d'horaires sanctuarisés. Cela va dépendre d'une espèce de pot commun sur lequel les chefs d'établissement prélèvent des enseignements de latin, de grec, mais aussi le dédoublement de l'anglais ou encore des TP en sciences. Évidemment, cela met les collègues en concurrence et cela fragilise les enseignements de langues anciennes. Et l'enseignement, et je finirai avec cela, eh bien, on a aussi les chiffres du CAPES. 45 admissibles pour 55 postes en lettres classiques. Les lettres classiques font donc partie des enseignements, des CAPES, où il y a moins d'admissibles que de postes. Encore une fois, nous ne sommes pas les plus malheureux. C'est l'allemand, à nouveau, qui est la discipline où il y a le moins de postes pourvus, suivi des lettres classiques, de la physique-chimie, des mathématiques et des lettres modernes. Dans le train ce matin, venant de ma lointaine province pour vous rencontrer, j'étais sur Twitter et je regardais les réactions à ces chiffres. Tous les arguments que je vous ai énumérés étaient repris et présentés, bon, en mode Twitter, hein, donc là, pas vraiment filtrés. Les défenseurs avançaient l'importance d'un accès à une culture, comme celle de la Grèce, incomparable, l'importance de l'étymologie pour le français, l'importance également des langues anciennes, et notamment du latin, pour l'identité française. Contre eux, on avait des « ça ne sert à rien », mais aussi « on n'a pas le temps » parce qu'il y a d'autres options en concurrence, et même si on aimerait bien faire du latin et du grec, eh bien c'est compliqué. Ou encore « c'est pour les bourgeois ». Mais aussi « le CAPES est trop difficile », et les nouvelles épreuves du CAPES mériteraient peut-être qu'on viennent un petit peu voir dans les universités ce qu'on peut exiger des étudiants, et en tout cas quand on les recrute, si on les recrute, eh bien qu'on assure derrière une formation continue et permanente, solide, qui leur permette de faire face, bien campés sur leurs deux jambes que sont le latin et le grec, voire le français, leurs enseignements face à leurs élèves. Je crois qu'il n'y a pas de fatalité et que de petits changements peuvent en fait tout à fait améliorer la situation. Cette question de la dotation horaire dans le secondaire ou encore la question des concours de recrutement. Je ne vais pas plus loin, je ne veux pas sombrer cette fois dans le militantisme. J'espère avoir apporté aujourd'hui quelques éléments de réflexion qui pourront vous permettre de vous faire une opinion documentée, un peu, quelques chiffres, un peu d'histoire sur le sujet. Et c'est à vous maintenant, à nous tous, hein, d'y répondre en conscience. Je vous remercie.
Eh bien, grand merci. Votre exposé a suscité un intérêt qui se concrétise dans la présence de plusieurs questions, à commencer par celle du grand rabbin Chaim Korsia.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour cette conférence qui nous a au mieux inquiétés, au pire mis au plus mal, parce que j'ai l'impression que les chiffres que vous avez notamment à la fin sont assez catastrophiques, et puis le mouvement ne semble pas se transformer, mais si vous estimez qu'il suffit de changer deux, trois choses pour améliorer, ben, ce serait formidable. Je reviens sur trois petites questions, si vous permettez, que je voulais vous poser. La première, c'est, j'étais étonné qu'au fond, pourquoi on veut connaître une langue ? Pour connaître une culture, et dans les langues dont vous parlez, en particulier connaître sa culture. Donc un appétit de savoir, c'est le mot que vous avez employé, appétit de savoir. Et pourtant, vous notiez de manière récurrente que l'un des éléments les plus importants mis en avant par les spécialistes, c'était la simplicité, langue simple à apprendre. Et moi, j'ai le sentiment que c'est une grossière erreur. Dire qu'une langue est simple, c'est, de mon point de vue, idiot. La réalité, c'est est-ce que ça veut dire qu'on n'est plus capable de valoriser les efforts ? Que le principe même de l'effort semble être antinomique avec l'école. Et moi, je vous règle avec une seule chose, le problème de l'école. On remet en avant ce principe de l'effort. Il est rétif de la Bretonne, le travail produit des inégalités justes. Donc, il ne s'agit pas de dire on va avoir une classe d'élite, une classe de bourgeois. Enfin, moi, quand j'ai fait du latin, j'étais dans un lycée tout à fait normal. Ce n'était pas un lycée, c'était un collège tout à fait normal, à Meaux, et en banlieue parisienne. Donc, je n'ai pas l'impression d'être dans les privilégiés, mais si certains le pensaient, tant mieux pour eux. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'injonction paradoxale à vouloir faire des efforts pour apprendre et à dire, mais il n'y a pas d'effort à faire, vous pouvez apprendre sans effort. Ça n'existe pas d'apprendre sans effort. La deuxième question que je voulais vous poser, c'est sur l'hébreu, avec des choses formidables que vous avez énoncées. D'abord parce que l'hébreu, moi je dis pourquoi ne pas pousser le classique jusqu'à l'hébreu. Après tout, c'était l'une des trois langues enseignées au Collège de France. C'était, si on veut comprendre la Bible dans le texte, vaut mieux passer par l'hébreu. Et je comprends la passion pour le grec. Le grec, c'est la seule langue dans laquelle on avait le droit de traduire la Bible. Le Talmud nous raconte que Ptolémée a réuni 70 anciens, il les a isolés et ils ont, par inspiration divine, traduit en même temps, de la même façon, avec les mêmes corrections en grec. Donc le grec a une sorte de sacralité, même s'ils n'étaient pas fondamentalement friendly avec les Hébreux de l'époque. Mais sur le principe, il y a quelque chose de sacré dans le grec. Mais pourquoi ne pas aller jusqu'à l'hébreu ? Et je pense que c'est aussi une façon de dire que, oui, aujourd'hui, c'est pour ça que je doute, faut pas que je doute de vos chiffres, mais juste en comptabilisant les élèves en terminale, au bac, donc, dans les écoles privées sous contrat, les écoles juives privées sous contrat, je suis à plus de 500 élèves en terminale, évidemment, largement plus, qui font en grande majorité hébreu. Donc je ne sais pas si vos chiffres ne concernent que l'école publique, et même les chiffres que vous avez donnés sur l'allemand avec mon éminent voisin, on se demandait 161 élèves au bac en allemand, c'est quand même... Il y a bien des lycées franco-allemands. Enfin, donc, si vous pouvez juste préciser ces chiffres, ça me paraissait important. Et puis, dernière question. Et vraiment, là, c'est une question de fond. Vous disiez, nous ne manquons pas d'élèves. Moi, je pense que ce dont on manque pour ces langues et pour d'autres matières, ce sont les débouchés. Et c'est, de mon point de vue, un travers de notre société, et en particulier un travers typiquement français, que de considérer qu'on s'enferme dans un avenir professionnel dès le début de nos études. Si vous faites du grec, du latin, vous êtes classique, vous serez prof, en gros, ou chercheur à la limite. En Angleterre, vous faites un cursus d'archéologie. Vous avez un PhD d'archéologie et vous êtes recruté à la Deutsche Bank à Londres, vous êtes recruté dans les plus grandes banques américaines, anglaises, ce que vous voulez, parce que ce qu'on mesure, ce n'est pas ce que vous savez, c'est votre capacité à apprendre et à produire de l'intelligence. Et je me dis, si on avait plus de débouchés, plus larges, et pardon, mais ce que vous disiez est tellement juste, y compris en incluant la culture générale. La culture générale était survalorisée à un moment peut-être, elle est sous-valorisée en disant on ne vous apprend pas une technique. Oui, mais on apprend à être, à comprendre le monde. Et donc si on augmentait les débouchés, on augmenterait mécaniquement le nombre d'élèves qui, passionnés par ce corpus de savoir, qui au fond permet de comprendre notre société, pourraient aussi redonner cette intelligence des situations dans leur vie professionnelle.
Merci beaucoup. Questions tout à fait pertinentes et intéressantes. Je ne suis pas sûre d'avoir tous les éléments pour répondre, mais je vais essayer d'apporter quelques réponses, oui, et quelques chiffres aussi, peut-être. Alors, c'était aussi un trait d'humour, hein. C'est peut-être tombé à plat, mais j'ai trouvé de manière assez récurrente chez ces grands savants cet argument que je trouve effectivement un peu dérisoire de « ça n'est pas, c'est facile, le grec, venez, venez, le grec, c'est facile ». Et vous disiez, on ne veut plus faire d'efforts, mais on est en 1504 avec Fortegueri. Et donc, ça remonte à très très loin, hein, cette idée que, eh bien, ça ne va pas vous demander tant d'efforts que ça. Je crois que c'est surtout lié au fait que le grec terrifiait, ne serait-ce que pas à cause de l'alphabet, hein, voilà, ça faisait très très peur. On ne l'avait pas appris pendant des siècles et on laissait un blanc parfois, hein, quand il y avait du grec dans un manuscrit en latin qu'on recopiait. Bon, donc voilà, je pense qu'il y a cette idée qu'il faut essayer de démystifier un petit peu l'effroi, hein, que provoque le grec. Et puis sans doute aussi des arguments commerciaux, parce qu'il faut bien qu'ils vivent, ces humanistes, hein, ils se font payer leurs leçons, et il y a comme ça un aspect un petit peu vulgaire, hein, tout simplement, de ces enseignants qui sont d'immenses savants, mais qui eh bien, également vont dire, Gessner, hein, écrit, voilà, à la fin de son long discours magnifique, hein, de défense du grec, il dit, si vous voulez l'apprendre vite, achetez mon dictionnaire. Voilà. Bon. Je crois que personne ne se fait d'illusion sur le fait qu'il faut faire de gros efforts pour apprendre le grec, en réalité. Et pour, entre autres, le grec. Cela dit, je me demande si ce n'est pas quelque chose qu'on a un peu exagéré pour le grec. Si on ne l'a pas aussi, parce que c'est devenu une discipline de sélection, et c'est peut-être dommage, si on n'a pas exagéré, en tout cas dans les pratiques pédagogiques, une forme d'exigence particulièrement aride, et si aride, voire ennuyeuse, de récitation, coupant pendant longtemps, hein, mais y a l'accès finalement à tout ce qui fait la richesse de la culture grecque. Voilà. Une année à ne faire que de la morphologie, une année à ne faire que de la syntaxe, apprendre tout cela par cœur, et puis seulement après, on sera récompensé en lisant Lucien, en lisant Aristophane, en lisant Démosthène. Je pense que il y a sans doute aussi un effet de construction de cette langue comme un outil de sélection, et donc une tendance à la rendre encore plus difficile à apprendre qu'elle ne l'est. Et ça, ce n'est peut-être pas un cadeau qu'on lui a fait. Alors ensuite, hein, les chiffres que j'ai cités, je ne les avance pas, hein, ce sont vraiment ceux du ministère, mais il faut que je précise quelque chose. Il s'agit des chiffres de la spécialité. Donc, alors, je ne sais pas si vous êtes au fait du nouveau bac, mais voilà. Ce sont les enseignements de spécialité, donc ceux qui ont choisi, hein, l'allemand ou le latin ou l'anglais ou l'espagnol. En spécialité, ce ne sont pas les chiffres des options. Voilà, donc les options, bien sûr, hein, sont davantage enseignées, mais pas tant que ça non plus. Mais bien entendu, ce sont, disons, les spécialistes, voilà, ceux qui ont fait ce choix-là. Alors après, quand je dis nous ne manquons pas d'élèves, et il y a des raisons d'espérer. Bon, parce que d'abord, je m'interdis de me lamenter, aujourd'hui et en général, je préfère agir. Et dans la liberté que nous offre l'université, dans l'élaboration de nos maquettes, dans les relations avec les autres disciplines, nous sommes finalement assez vite rendus compte qu'on pouvait, moyennant des discussions avec des collègues d'autres disciplines et un certain militantisme, en réalité, on pouvait tout à fait avoir des promotions d'étudiants assez remplies et des élèves enthousiastes. Donc, voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus noircir la situation. Je ne suis pas sûre que la situation soit la même dans le secondaire. Je parlais de ce que je connais le mieux, hein, c'est-à-dire ce qu'on peut faire, c'est pas forcément ce qu'on fait, mais ce qu'on peut faire à l'université. Et notamment, cette possibilité qu'on a finalement d'étudier les sciences de l'Antiquité, et pas les langues toutes seules, hein, mais de les intégrer dans, eh bien, une initiation dès très tôt, dès la première année de licence, à la paléographie, à la papyrologie, à la numismatique. Voilà. Et quand on les met davantage en contexte, eh bien, il y a en tout cas des étudiants que ça intéresse, qui peuvent venir de loin pour cela, y compris dans une petite ville de province comme la mienne. Alors après, sur la question des débouchés, hein, bon, j'aime beaucoup, hein, évidemment, cette idée qu'on ait une propédeutique, un enseignement propédeutique, où on va s'entraîner, et après tout, à la limite, peu importe sur quoi on s'entraîne, tant qu'on s'entraîne. le peu importe est un petit peu exagéré. Je pense que nous avons la chance, en fait, d'avoir une tradition d'enseignement du latin et du grec en France. Alors, c'est vrai, ça s'est fait aux dépens d'autres langues, notamment de l'hébreu en France. Hein, le collège trilingue de Louvain intégré l'hébreu, ça a été vraiment un choix français. Je ne connais pas bien les détails de cette exclusion. Pour tout vous dire, je sais que Saladin en parle dans la bataille du grec à la Renaissance, mais voilà, je ne sais pas précisément pourquoi. Bon, si c'était qu'on a suivi les recommandations d'Erasme, hein, qui n'y était pas très très favorable. Mais je crois que cette propédeutique, c'est le rôle qui a longtemps été joué par l'enseignement secondaire. C'est peut-être le rôle qui est aujourd'hui joué par des institutions comme Sciences Po, ou les classes préparatoires, où finalement on va continuer à avoir une culture générale, je pense, classes préparatoires littéraires notamment. Et puis c'est aussi finalement ce que viennent chercher les étudiants qui réclament des doubles licences, hein, des formations qui ont un grand succès. C'est vrai que la spécialisation, mais je crois que ça vaut pour toutes les disciplines, la spécialisation dès la première année de licence n'est plus la norme en France actuellement.
Merci. Jean Béchler.
Merci. Un argument de bon sens en faveur de l'apprentissage d'une langue, mais ça vaut pour toutes les langues, c'est que ça donne accès à des textes et au-delà à une culture ou une civilisation. Donc ça ne vaut pas que pour le grec. Mais si on s'attache au grec, je vous ai dit que j'étais hellénolâtre. Cela donne accès à un certain nombre de corpus fondamentaux qui sont passionnants. Il y a un corpus proprement littéraire, Homère, les tragiques, un corpus philosophique, c'est évident, Platon, Aristote, un corpus politique, Isocrate, Démosthène, comme ça je cite au hasard, si vous voulez, ou un corpus médical, Hippocrate et Galien. Bon, tout ça est connu. Et ma question est-ce que dans les défenseurs de l'enseignement du grec, certains ont appuyé l'argument que ça donnait accès à un corpus religieux auquel Corsi a déjà fait allusion. Les évangiles, c'est en grec. Saint Paul, c'est en grec. Et surtout, l'explicitation de la révélation chrétienne a pour l'essentiel été effectuée par les pères grecs de l'Église, jusqu'au IVe siècle, et le concile de Chalcédoine, 451, c'est ça ? Et donc, y a-t-il des défenseurs du grec, sous prétexte de la lecture des pères de l'Église ? Enfin, c'est une question toute simple. Enfin.
Merci beaucoup. Oui, tout à fait, bien sûr. Hein, y a le corpus de tout ce qu'ont écrit et de tout ce qu'ont exploré les Grecs. Mais dans ce corpus, il y a bien entendu les écritures et ça fait bien entendu partie hein, des arguments dès le XVIe siècle, hein, en fait, pour l'étude du grec, tout à fait. Mais en fait, encore aujourd'hui, et je pense que c'est peut-être ça aussi qui est le plus surprenant, parce qu'après, c'est moins prégnant, disons, après le XVIe siècle, mais ça revient beaucoup aujourd'hui, notamment aux États-Unis, où on a un véritable souci d'accès aux textes en grec, aux écritures en grec. Donc voilà, il y a tout un tas de manuels, de pratiques pédagogiques, notamment de l'oralisation, hein, d'apprentissage du grec ancien, mais par l'oral, par la conversation. Tout cela est très moderne, ça se passe sur les réseaux sociaux, il y a vraiment une utilisation de tous les outils numériques les plus contemporains pour diffuser de la manière la plus large et la plus généreuse aussi toute cette production qui va vous permettre d'accéder le plus possible aux textes religieux.
Merci. Jacques de la Rosière.
Monsieur le Président, j'ai été très intéressé par votre exposé. Je trouve que l'argumentaire que vous avez présenté pour l'étude du grec est très convaincant. Je vais vous faire un aveu. J'ai passé l'enseignement secondaire, comme tout le monde, et le rayon lumineux qui a traversé mon expérience du secondaire, c'est l'étude du grec ancien. Et je vais vous dire en deux mots les trois raisons. La dernière est celle de notre ami Béchler, c'est-à-dire que c'est quand même la porte ouverte à une culture extraordinaire, parce que c'est la culture grecque qui nous a appris à penser. Et de ce point de vue, si vous voulez, le grec domine le latin, parce que la civilisation latine ne prétend pas à cette ouverture intellectuelle qui est celle du grec. Ça, c'est la troisième raison que j'avais. La première raison, c'est que ce n'est pas une langue morte, c'est une langue vivante. L'épreuve que je vous soumets est la suivante. Quand vous cherchez la raison d'un mot, l'étymologie d'un mot, vous pensez très vite au grec. Et le grec, c'est le ferment qui vous explique la raison d'être des mots. Et ce n'est pas une langue morte qui peut faire ça, c'est une langue vivante. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison est moins commune. J'ai vécu dans un monde grec quand j'étais enfant. Et le grec est une langue parlée. Alors, la langue parlée grecque d'aujourd'hui est très différente de la langue classique. Mais j'ai soumis des gens qui m'entouraient, qui étaient des gens qui n'avaient pas fait d'études de grec ancien, c'était du personnel plutôt de maison. Et je les ai soumis à un test. Quand j'avais un texte grec que je ne comprenais pas bien, il y avait un problème de sens, je leur montrais ce texte. Et ils me disaient le sens. Ils ne se trompaient pas. Et donc, il y a un lien entre la langue parlée et la langue ancienne que vous ne trouvez pas en latin, pas au même degré. Et enfin, je voulais dire que la langue grecque est une langue enthousiasmante. D'abord parce qu'il y a le mystère de l'alphabet. Il faut quand même se bouger un petit peu, comme on dit, pour comprendre l'alphabet grec, les alpha, bêta, etc. Et ça, pour moi, ce n'était pas du tout quelque chose qui me rebutait. C'était quelque chose qui... C'était une clé dans l'aventure. Quand je comprenais, je savais lire un texte grec, j'avais déjà fait un effort. Et donc, la construction de la langue grecque, la manière d'écrire le grec, est une clé qui ne peut que vous avantager intellectuellement. Donc, pour ces raisons que je vous soumets, chère madame, mais je pense que vous serez d'accord, j'aime le grec.
Merci beaucoup pour ce témoignage émouvant. Je pense au titre de Jacqueline Neuromi, pour l'amour du grec, et c'est vrai qu'on trouve souvent, en fait, chez les personnes qui ont fait du grec à un moment ou un autre de leur cursus, hein, cette émotion, ce souvenir qui est peut-être dû, je ne sais pas, au fait que c'était une matière à part, que vous aviez peut-être des professeurs exceptionnels, militants, enthousiastes, hein, c'est souvent le cas. Voilà, je trouve ça très, très émouvant, et je vous remercie.
Merci. Alors attendez, nous avons donc... Oui, j'ai noté Marianne, mais d'abord Thierry de Montbrial.
Merci, Monsieur le Président. Jacques de la Rosière vient de retourner le fer dans ma plaie, car je n'ai pas fait de grec, hélas.
Ah, mais ça se sent.
Oui, mais je manie plus depuis longtemps l'alphabet grec que bien des gens qui en ont fait, à cause des mathématiques. J'ai d'ailleurs appris l'alphabet, et bien que ne connaissant pas le grec, je fouine assez souvent dans le bailli pour trouver les étymologies de certains mots, et on y arrive un petit peu. Alors, plus sérieusement, je voudrais faire trois brèves remarques préliminaires et poser une vraie question. Bon, la première remarque préliminaire, c'est que, oui, c'est la question de l'accès. Oui, bien sûr, mais enfin, moi, comme beaucoup d'entre nous qui a eu l'illusion pendant quelques temps qu'il était possible de tout apprendre à peu près, j'ai renoncé depuis longtemps à cette folie, et heureusement qu'on peut tout de même avoir accès à des cultures sans connaître les langues. L'arabe est certainement l'une des plus belles langues au monde, mais peu de gens apprennent l'arabe à l'école. Alors, il existe quelque chose qui s'appelle la traduction, et ça fonctionne quand même. Bon, mais pour ça, il faut évidemment des gens qui connaissent extrêmement bien d'abord leur propre langue. Et ça commence par la connaissance de sa propre langue pour pouvoir de bonnes traductions. Bon, enfin, ça, c'est une remarque sur l'accès, mais vous allez voir, c'est cohérent avec la question que je vous pose après. Bon, les efforts. Oui, moi, je pense qu'un des buts fondamentaux dans l'enseignement, dès le primaire, c'est d'apprendre à faire des efforts. Et merci. Et moi, je dis, j'ai pas fait de grec, mais par contre, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mathématiques. Ça n'est pas facile. Bon. Et en plus, avant de pouvoir s'amuser en mathématiques, il faut avoir passé de longues années à faire des choses qui ne sont pas drôles, c'est-à-dire les bases. Bon, et comme en musique aussi, le solfège. Je pensais pas, on ne maîtrise pas. Les gens qui lisent la partition à livre ouvert, hein, c'est pas si fréquent que ça. Donc, il faut rappeler aussi que cette question de l'effort. Bon. Je voudrais dire aussi qu'aucune langue n'est facile. D'ailleurs, aucune langue n'est facile. S'il existait des langues faciles, moi j'entends souvent dire que l'anglais est facile. Je suis désolé, je suis entouré de gens qui prétendent parler anglais et qui parlent en fait extrêmement mal. Donc qu'est-ce que c'est que bien connaître, bien parler une langue? Alors tout ceci en fait me conduit à ma véritable question, qui est qu'au fond, on parle de quoi? On parle de quoi enseigner à qui et pourquoi? Quoi enseigner à qui et pourquoi? Et ceci sur, disons, la période qui va du primaire, enfin, de l'école, enfin, le collège, comme on dit aujourd'hui, les petites classes, comme on disait de mon temps, jusque l'enseignement supérieur. Bon. Et là, le vrai problème tel que je le ressens, c'est l'absence totale dans un pays comme la France de stratégie. Là, j'emploie le mot militaire, de stratégie. Et de stratégie dans un univers qui s'est caractérisé, par rapport à l'époque de nos études, à nous, pour beaucoup d'entre nous, sur lesquels les années sont passées, dans un contexte de massification. Bon. Moi, quand j'étais en classe de 4e, j'avais un professeur illustre, dont le nom est encore connu, qui s'appelait Maurice Rat, ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé de grammaire, professeur de 4e au lycée Janson de Sailly. C'était dans tous ces professeurs de 4e au lycée Janson de Sailly. Bon. Aujourd'hui, cette massification fait que, et on se perd dans tous les méandres, que ce soit les options, les disciplines prioritaires, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin les choix.
Il y a les spécialités et les options.
Oui, les spécialités et les options, etc. Bon. Et moi, je vois, j'ai dans mon entourage des jeunes agrégés de lettres, une petite fille qui est agrégée de lettres classiques, de lettres modernes, pardon. Elle est formidable, mais parfois je suis stupéfait de son ignorance. Bon. Alors, si vous voulez, je crois que c'est tout. Derrière tout ça, il y a le problème de penser le système éducatif dans son ensemble. Et c'est dans ce contexte-là, que me semble-t-il, respectueusement, que le contexte de la survie du grec en particulier se pose. C'est-à-dire qu'il faut que dans cette stratégie, il y ait une place pour l'ensemble du système, pour un certain nombre de gens qui, arrivant au niveau des études supérieures et après, aient effectivement une connaissance approfondie du grec et puissent en faire profiter un certain nombre d'autres, mais pour des raisons qui sont en partie celles des débouchés, dont Raïm Grossia parlait tout à l'heure, mais pour des raisons qui doivent être un petit peu systématiquement pensées et pas seulement dans un cadre idéologique, parce que beaucoup des choses que vous avez dites, c'est absolument passionnant, mais sont un peu de l'ordre de l'idéologie aussi. Bon, je m'arrête là, parce que sinon... Mais je ne me lamente pas.
C'est toujours le risque avec ce sujet. Merci beaucoup. Effectivement, c'était un des enjeux du travail que j'ai essayé de faire, de montrer qu'il y avait cette récurrence d'arguments qui devenaient sclérosés. Et finalement, on va réciter des déclinaisons et on considère qu'on a eu accès à un savoir exceptionnel. Non, c'est pas vrai. On peut avoir fait beaucoup d'années de latin et de grec et ne savoir toujours pas lire, traduire les textes en question. Sur la question de l'effort, qui a l'air de beaucoup vous préoccuper, et je le comprends, Un des arguments qui est souvent opposé à l'idée que le latin et le grec apporteraient cette propédeutique, cette gymnastique de l'esprit, c'est qu'on peut l'acquérir avec d'autres disciplines. Et je pense effectivement, par exemple, avec la musique ou sans doute avec les mathématiques, il y a quelque chose de cet ordre aussi. Je lisais récemment qu'il était beaucoup plus utile d'apprendre la programmation informatique que les langues anciennes. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que mes étudiants de lettres classiques, quand ils font de la programmation informatique, eh bien, ils sont très très forts. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est parce qu'ils ont cette rigueur que leur a enseigné notamment le latin, peut-être moins le grec, mais notamment le latin. Pourquoi le latin ? Alors, je ne pense pas du tout que le latin soit une langue plus rigoureuse que le grec. Le latin peut être parfaitement fantasque et plein d'irrégularités. En revanche, nous avons cette tradition pédagogique éprouvée dans la très très longue durée, alors un peu moins longue que pour le grec, mais à beaucoup plus large échelle. Et je pense que c'est vraiment un trésor. Et donc, c'est cela en fait qui distingue les langues anciennes. Ça n'est pas une langue plus intéressante qu'une autre. C'est la tradition qui est intéressante. Et ce serait extrêmement dommage pour cette raison, ne serait-ce que pour cette raison, de l'abandonner.
Merci. Jean Tullard.
Merci, Monsieur le Président. Napoléon. Ah. Encore Napoléon.
Qui sait ?
Toujours Napoléon. Vous n'avez pas suffisamment peut-être marqué que c'est l'Empire qui assure la supériorité du latin sur le grec. Il n'y a pas d'empereur à Athènes. Il n'y a pas de consul à Athènes. Il n'y a pas de sénat à Athènes. Il n'y a pas de tribun à Athènes. Et Chateaubriand cite Tacite plutôt que Thucydide. Bref, il faudra attendre le réveil avec la Vénus de Milo qu'on redécouvre dans les années 1820 avec le mouvement Philénène pour que le grec retrouve son importance. Néanmoins, il a été écrasé par l'époque du consulat et de l'Empire dont nous vivons encore. Alors, évidemment, je dois dire que le grec n'a jamais été pour moi, spécialiste de Napoléon, très important. J'irai même plus loin. J'ai été présenté au concours général de version latine par le lycée Louis-le-Grand sans connaître, comme mon ami Montbrial, un seul mot de grec. Mais, après vous avoir entendu, je crois qu'à presque 89 ans, je vais, madame, me mettre au grec. Bon.
Eh bien, merci de suivre l'exemple de Caton l'Ancien. Chantal Delsol.
Oui, merci. Merci, madame, pour cette belle conférence. Je voulais vous demander juste une question. Ce que vous pensez de ce qu'on appelle le tournant spatial appliqué à votre sujet ? Je m'explique. Je précise tout d'abord que j'ai fait personnellement du latin et du grec avec joie et pendant très longtemps. Mais je ne pense pas du tout que le déclin du latin grec signifie une sorte de montée de l'ignorance. Pourquoi ? Parce que les bons élèves qui autrefois faisaient du latin et du grec et en général des maths avec sont maintenant des gens qui font plutôt de l'arabe, du russe, du chinois, beaucoup de gens font, et puis surtout de l'anglais, qui font très bien de l'anglais, du vrai anglais, comme disait Thierry. Parce que dans les années 60, nous avions comme prof d'anglais un vieux type qui n'avait jamais été à Londres et qui nous apprenait dans les écoles chrétiennes, le Notre Père en anglais, c'était à peu près tout ce qu'on pouvait apprendre. Donc j'entends apprendre l'anglais comme il faut, et puis des langues rares. Autrement dit, ce sont des gens qui, enfin les bons élèves d'aujourd'hui, sont des gens qui, au lieu de creuser dans le temps, s'étendent dans l'espace. Hein, ce qu'on appelle, dans d'autres disciplines, tournant spatial, et qui s'applique aussi ici. Mais vous avez aussi bien la distinction, parce que quand vous apprenez le chinois, vous avez la distinction, vous avez l'ouverture à l'autre, et combien ? Autrement dit, ma question est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a là une détérioration ou qu'il n'y a pas plutôt là simplement un changement de regard ?
Alors, je ne parlerai sûrement pas de détérioration, parce que je pense qu'il y a encore de très très bons élèves, peut-être pas tous, mais il y a encore de très très bons élèves, et peut-être même sont-ils meilleurs que ceux d'il y a un siècle, ceux qui aujourd'hui remportent les prix du concours général, ceux qui rentrent majeurs dans les grandes écoles. Donc non, ces bons élèves, ils existent toujours. Après, la question, ce sont peut-être plutôt les autres. Et après, Je suis un petit peu gênée par l'idée de la mise en concurrence. En fait, je pense que plus on apprend de choses et plus on en apprend. Et je crois qu'on peut être un très bon angliciste et un très bon helléniste. Voilà, que ça n'est pas incompatible du tout. Voilà, pourquoi pas faire du russe et du grec. Ce qui me gêne, c'est qu'on ne puisse plus ou presque faire ni l'un ni l'autre. Que ce soit réservé à quelques lycées privilégiés, à quelques élèves privilégiés, je crois que voilà, cette diversité, et d'ailleurs ça remonte au XVIe siècle avec l'hébreu et avec l'arabe, il y avait d'autres humanistes qui prenaient aussi, en plus de l'hébreu, l'apprentissage de l'arabe. Je crois que la fermeture n'est jamais bonne. Donc voilà, il ne s'agit pas du tout d'une mise en concurrence. Le seul petit bémol, mais je l'ai déjà dit, donc je ne voudrais pas radoter, mais c'est celui de cette tradition pédagogique et le fait qu'on a aussi un personnel compétent, finalement, qui est là pour enseigner ces disciplines. Et pour cette raison, autant l'utiliser. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'il y a d'autres disciplines qu'il faudrait négliger pour autant. Je suis pour qu'il y ait beaucoup d'options et que les élèves qui en ont les capacités puissent en prendre le plus possible.
Si elle le demande, oui. Mais bien, Jean-Claude Casanova.
Merci, Monsieur le Président. Je suis dans la même situation que Thierry de Montbrial. Je n'ai pas fait de grec parce que mon père voulait que je fasse de l'arabe et ma mère de l'italien, et ma mère l'a emporté. Je l'ai regretté toute ma vie, mais j'ai un bailli dans ma bibliothèque, j'ai des budets, j'ai le dictionnaire des racines grecques, etc. J'ai fait des efforts, mais je n'aboutis jamais. Mais j'ai beaucoup étudié le problème de la défense du grec et du latin en France, et je voudrais insister sur une particularité française qui rend le combat extrêmement difficile, qui est la religion française pour l'égalité. Et je vais vous raconter une anecdote. Un mois avant sa mort, le président Pompidou avait reçu Joseph Fontanet, qui avait une réforme de l'éducation, comme tous les ministres de l'éducation. J'étais au cabinet de Fontanet, je m'occupais de l'enseignement supérieur. Et j'attendais Fontanet le soir, il arrive à 7h30, il me dit « Vous ne savez pas ce que m'a demandé Pompidou ?» Je dis « Non ». Il me dit « Il m'a dit, je vous demande une seule chose dans ma vie, c'est le rétablissement du latin en sixième ». Et Fontanet me dit, demain, il y a la réunion des directeurs, je vais leur poser la question et nous allons le faire. Et je me souviens d'avoir dit à Fontanet, vous allez vous amuser demain matin. Le lendemain matin, il y a eu la réunion des directeurs d'enseignement supérieur, des directeurs de tous les directeurs du ministère de l'Éducation, excusez-moi, et aucun n'a soutenu la proposition de Pompidou. C'était très facile de comprendre pourquoi. Depuis 30 ou 40 ans, la domination sur l'enseignement et sur l'éducation de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm avait disparu. Le monde de l'éducation est gouverné par le monde qui venait de Saint-Cloud, c'est-à-dire les gens qui n'aiment pas la rue d'Ulm, qui n'aiment ni le latin ni le grec, parce que c'est l'école normale des instituteurs. Ça vient du monde des PGC et des syndicats, ça vient du monde de l'enseignement technique. Et s'ils sont contre le latin, je les ai entendus dire, il y avait un prof de droit parmi eux, qui était Lebris et qui n'a su rien répondre. Mais bien qu'il ait dû apprendre le droit romain, comme tous les licenciés en droit. Mais l'argument fondamental, c'était le rétablissement du latin, c'est l'inégalité sociale. C'est à nouveau la bourgeoisie qui se distingue par le latin vis-à-vis de ceux qui ne le savent pas. Et c'est ça qui est extrêmement puissant et qui nous empêche de faire ce que font les Allemands et les Anglais, ou les Américains. Si vous allez à Harvard et que vous allez à la coupe des étudiants, la grande pièce d'entrée, c'est la Loeb. Il y a la collection de la Loeb, latin et grec. Donc, tout étudiant de Harvard sait que le latin et le grec, c'est très important. Et dans les écoles privées américaines ou à Eton en Angleterre, on apprend le latin et le grec, plus le grec d'ailleurs que le latin d'une certaine façon. C'est-à-dire que l'Angleterre, les États-Unis, l'Allemagne acceptent, dans leur système d'éducation, une différenciation. Et les défenseurs du latin en France ont manifestement raison. Le latin, le français est une langue latine. Donc un espagnol, un italien et un français qui ne connaît pas le latin, ne comprend pas le fondement de sa langue. Donc c'est évident qu'il faut enseigner le latin en France. Mais pour enseigner, prenez 1900. 1900, il y a 4000 bacheliers. 4000 bacheliers, 30 élèves qui rentrent à l'école normale, qui savent tous le latin et le grec parfaitement,
Pour entrer à Polytechnique, on prend du latin et du grec parce que ça donne davantage de points. Pour faire sa médecine, il faut savoir le grec. Le grec est obligatoire pour les études de médecine. Et donc la France fournit son lot d'hellénistes et de latinistes satisfaisants. Ça serait très facile aujourd'hui d'avoir un bon lot de latinistes et d'hellénistes si on laissait les établissements de l'enseignement secondaire se différencier. Les gens qui sont contre, c'est les proviseurs qui disent « Ah non, je ne vais pas faire une classe de grec et de latin, parce que là, c'est là qu'iront les bons élèves. » Le seul élitisme qui est préservé en France, pour l'instant, je ne sais pas si ça durera, encore que le déclin des mathématiques est très inquiétant pour la France, c'est l'élitisme mathématique. On accepte qu'on fait très bien des maths à certains lycées, que certains lycées se différencient par d'autres. Mais parmi les proviseurs, parmi les recteurs, etc., les gens ont peur de l'idée que si on se met à faire beaucoup de latin à Louis-le-Grand, ou si on se met à faire du latin à Jean-Saëns de Sailly, ou si on se met du latin à tel lycée de Lyon ou à tel lycée de Marseille, il y aura une différenciation sociale. Et donc, la lutte contre toute forme de différenciation sociale rend très difficile le maintien du minimum de culture qu'il pourrait y avoir en latin et en grec, alors qu'elles sont, je crois, fondamentalement nécessaires.
Bien. Souhaitez-vous répondre ?
Oui, je pense qu'il y a encore beaucoup d'endroits qui ont des stratégies pour qu'il y ait encore en fait du latin et du grec. Hein, je pense qu'à Louis-le-Grand, au lycée du Parc, le latin et le grec sont bien enseignés. Donc voilà, cette différenciation, elle existe, mais peut-être pas au niveau du secondaire. Mais voilà.
Mais si l'agrégation de lettres classiques disparaît, tout est perdu.
Et alors, ce qui m'intéressait, c'est ce que vous disiez sur les maths, parce que dans les discours actuels sur les mathématiques, j'entends beaucoup de choses, en fait, je vois beaucoup de comparaisons possibles avec les langues anciennes, hein, donc une discipline, effectivement, d'excellence, qui fait la grandeur de la France, hein, voilà, c'est la discipline, je crois, qui faisait, mais qui risque de ne plus le faire, plus autant de médailles Fields en perspective qu'auparavant, et voilà, un outil de sélection, une discipline à qui on commence à reprocher de ne pas assez se renouveler du point de vue pédagogique. Oui, voilà, ce serait parce que, voilà, avec le nouveau bac, hein, il y a eu une grosse désaffection, hein, notamment de la spécialité mathématique, paraît-il, de la part des filles. Je ne sais pas dans quelle mesure on ne les a pas utilisées dans cette histoire. Voilà, un des arguments, c'est eh bien, il faut qu'ils se renouvellent pédagogiquement. Voilà. Et c'est vraiment un argument qui est très très fréquent pour les langues anciennes, hein, dans les attaques contre les langues anciennes. Alors que sans doute qu'il y a eu des périodes d'immobilisme, mais c'est aussi, je crois, hein, des enseignements où il y a un véritable bouillonnement, de véritables innovations vraiment intéressantes, parce que de toute façon, quand on est acculé, on n'a plus le choix. Donc voilà, tous les moyens sont bons pour défendre sa discipline. Et quand il y a eu donc cette polémique sur le retour des mathématiques dans le tronc commun en première, hein, tout récemment, il a d'abord été annoncé que ce serait un retour sous la forme d'options. Et je ne saurais trop vous conseiller de vous méfier du retour par la forme de l'option, parce que l'option, c'est vraiment la porte ouverte à toutes les compromissions, parce qu'il faut devenir séduisant, sexy, il faut surtout pas dégoûter les élèves, et voilà. Je ne vous souhaite pas de connaître cette situation.
Merci. Le problème est le suivant. Nous avons encore 4 questions. Celle de Marianne Bastide-Bruguère, de Serge Sûr, d'Yves Godemet et de Jean-Claude Trichet. J'aurais bien aimé aussi en poser une, mais il serait peut-être bon d'écouter rapidement ce que Souad Ayada a à nous dire précisément sur ce sujet, puisqu'elle a été et reste vraiment au cœur des débats, vu ses fonctions pour les programmes et l'inspection, etc.
Merci, Monsieur le Président. Je voulais d'abord peut-être souligner quelque chose qui laisse de l'enseignement du grec et dont qui le rend embarrassant dans le système scolaire. Comme l'hébreu, comme l'arabe, c'est une langue liturgique aussi, hein, donc où la dimension de sacralité est partie prenante de son enseignement, et il est difficile dans l'espace français qui est le nôtre de d'intégrer pleinement cela, ajouter pour l'arabe bien d'autres difficultés et d'autres enjeux, hein, qui n'est pas ici le lieu de discuter. Je voudrais vous faire part, si vous me permettez, de l'expérience que j'ai eue au Conseil supérieur des programmes quand, il y a moins de 2 ans, Jean-Michel Blanquer nous a demandé d'élaborer un nouvel enseignement facultatif proposé en classe de 6e, intitulé « Français et culture antique ». Cet enseignement avait pour but, nous retrouvons l'un des thèmes que vous avez élaboré, non pas d'enseigner le latin, encore moins le grec, mais d'introduire, de permettre aux élèves, notamment aux élèves en difficulté, de mieux accéder au français. La difficulté dans laquelle nous trouvions, et là nous voyons bien le complexe idéologique dans lequel se trouve en France l'enseignement des langues anciennes, il a été question de n'ouvrir cet enseignement facultatif en 6e que dans les collèges d'éducation prioritaire. Voilà, je vous laisse méditer cet ancrage idéologique très difficile.
Alors, merci beaucoup de donner votre point de vue sur cette question, parce que j'ai effectivement suivi l'émergence de ce nouvel enseignement. Je n'ai pas encore rencontré d'enseignants du secondaire qui l'aient mis en pratique, et je vous avoue que je n'avais pas compris, parce qu'il y avait des discours effectivement qui disaient « ça va être réservé au REP+, hein, je crois ». Et puis d'autres qui avaient l'air de dire que ce serait plutôt pour qui pouvait le faire, qui voulait le faire. Et voilà, ça m'intéresse vraiment.
C'était simplement de clarifier pour l'ensemble des académiciens la question de la dotation horaire globale. Il faut savoir que tous les enseignements facultatifs sont pris dans les collèges dans une enveloppe qui est assez modeste et qui permet à la fois de dédoubler, de faire de la remédiation, voilà. Et il reste finalement peu de choses pour un enseignement de qualité de langue et culture de l'Antiquité, comme on dit aujourd'hui.
Merci, c'est tout à fait édifiant, si j'ose dire. Marianne Bastide-Bruguière.
Tout d'abord, je voudrais les attraits du grec qu'a décrit M. de la Rosière fonctionnent encore. Ma petite fille, qui passe de seconde en première, a décidé de garder le grec pour ces raisons-là. Je suis bien contente parce que je lui ai fait réciter ses conjugaisons, ses déclinaisons, donc ça servait à quelque chose, mais elle a un très bon professeur de grec aussi. Et avec le grec, elle garde le latin, les maths, l'anglais et l'allemand. Bon, heureusement. Mais la question que je veux vous poser, c'est il y a 30 ans, quand j'étais à la tête de l'école littéraire de l'école normale, nous fabriquions à peu près 20 agrégés de lettres classiques par an. Parmi eux, il y en avait un certain nombre qui n'avaient aucune envie de faire des thèses, ni non plus envie d'enseigner en collège. Et pourtant, à cette époque-là, ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Et donc, le problème, c'était leur débouché. Il s'est trouvé que parmi eux, il y en a un qui, par relation familiale, bon helléniste, qui avait aussi profité du numérique qui commençait à l'école, que j'avais introduit dans l'école littéraire pour ne pas le garder seulement pour les scientifiques. Et il est entré, il a fait de l'ingénierie financière, formidable, si formidable, que cette boîte d'ingénierie financière et d'autres ont embauché à ce moment-là toute une série de jeunes hellénistes agrégés de lettres classiques. Et il y en a que j'ai suivis ensuite, et c'était leur agilité intellectuelle. Parce que le grec, à la différence du latin, n'a pas une grammaire aussi contraignante que celle du latin. On est obligé un peu de jongler. Et c'est grâce à ça que ça marchait. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que on arrive à placer des hellénistes dans l'ingénierie financière? Je dois dire qu'une autre partie s'occupait des pères de l'Église, qui étaient à ce moment-là un filon porteur. Voilà.
Merci beaucoup. et bravo à votre petite fille. Elle a de la chance d'ailleurs de pouvoir cumuler toutes ces options. Alors l'ingénierie financière, honnêtement, je ne sais pas, mais ce que je constate en tout cas, et ce que je conseille à mes étudiants, et ça se passe très bien, c'est de cumuler leurs études d'antiquisants avec du numérique, pour lequel ils sont effectivement très très doués et qui vient complètement, qui correspond très bien à leur, comme vous dites, leur agilité et qui en plus permet véritablement de renouveler de manière tout à fait intéressante la manière dont on aborde les textes anciens ou la linguistique ancienne, parce qu'on fait des éditions de textes numériques, parce qu'on va comptabiliser sur des corpus importants et donc analyser des termes ou des structures syntaxiques, ça n'est pas antithétique, bien au contraire. Donc voilà, c'est du coup peut-être aussi un débouché, une issue pour ces étudiants, où ils valorisent cet apprentissage, sans pour autant d'ailleurs l'abandonner. J'en profite pour vous dire, puisque beaucoup évoquaient avec nostalgie leur bailli, vous l'avez sur vos smartphones. Donc ça aussi, c'est une innovation tout à fait pratique. Vous pouvez dans le métro vérifier une étymologie maintenant. Donc ça fait partie aussi des innovations qu'ont mis en place des hellénistes qui trouvaient que ce serait bien utile, et c'est effectivement extrêmement utile.
Merci. Alors il nous reste 2 minutes et 2 questions. Donc le calcul est facile. Serge Sûr.
Merci Monsieur le Président. Je vais être bref. D'ailleurs c'est plus une observation qu'une question. C'est vrai que les chiffres et les éléments que vous donnez sont très convaincants. Il y a un déclin de l'étude de ces langues, et donc par là de la connaissance de ces langues. Mais en même temps, il y a une très grande vitalité de la pensée antique. Et il me semble que dans les humanités, on doit distinguer la langue et la pensée. La pensée antique, elle continue à irriguer, elle est toujours le fondement commun de la civilisation européenne. Et pour moi, c'est d'ailleurs la pensée gréco-latine, pas simplement grecque, mais il y a un amalgame qui s'est produit entre les deux, en tout cas dans notre perception. Et elle est toujours présente dans toutes les disciplines. J'en prendrai simplement 1 ou 2 exemples. Le droit international, il est hérissé de formules tirées du droit romain. Pacta sunt servanda, pacta tercis, nec nocent, nec prosunt, res inter alios acta. Il y a beaucoup, beaucoup d'expressions comme cela. Et donc, ça implique une connaissance minimaliste du latin, mais ça provient aussi du droit romain. Évidemment, comment peut-on faire de la philosophie si on ne connaît pas Aristote et Platon ? Elle est omniprésente, la pensée antique, et même l'esthétique antique. Regardez ces bustes. La plupart sont inspirés par des bustes d'empereurs romains. Et l'archéologie, elle est en plein développement. Et lorsqu'une cité comme Palmyre est atteinte, non pas détruite, mais en partie atteinte, eh bien, on se précipite pour la restaurer. Et donc, il y a une véritable présence. Et je terminerai par la littérature. On considère que l'Iliade et l'Odyssée, ce sont les 2 modèles romanesques. L'Iliade est construit autour de la colère d'Achille, un événement organisateur autour duquel tout s'articule. Et puis l'Odyssée, à l'inverse, c'est le cycle, c'est le parcours. Et tous les Romains obéissent à cette logique-là. Et donc, la pensée antique, elle est pleinement présente, elle nous irrigue, elle a été diffusée. Et même s'il paraît, elle est comme le dieu d'Heidegger, elle disparaît, mais elle est d'autant plus présente qu'elle a disparu.
Je ne peux qu'abonder, et j'ajouterai que le théâtre, les mises en scène de théâtre antique sont très fréquentes actuellement, les mises en scène d'Homère aussi, il y a eu tout un festival d'Avignon autour des mises en scène de l'Odyssée, les séries, les jeux vidéo, le grand public est fan d'Antiquité. Voilà, comment transformer ça en une volonté, un souci, un soutien à l'enseignement des langues et cultures de l'Antiquité, c'est bien. Quelque chose sur quoi il faut encore travailler.
Yves Godemet. Oui, Monsieur le Président, je vais suivre vos conseils. Je vais renoncer à ma question, mais tout de même, je ne poserai pas de questions, mais je voudrais rendre un hommage particulier à cette conférence et à notre oratrice d'aujourd'hui, parce que vous avez suscité des questions, votre exposé était remarquable, mais vous avez suscité des questions d'un genre nouveau. Chacun d'entre nous s'est trouvé un peu rajeuni, s'est raconté. Et au fond, c'est confié à vous, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, donc c'est un hommage particulier que je ne poserai pas de questions, j'en avais une, mais pour avoir fait moi aussi 4 ans de grec, 2 ans de latin, etc., et en avoir gardé le meilleur souvenir, avec des professeurs normaliens, c'était formidable.
Et des bonnes notes, quelles notes tu as eues ?
Donc, Donc Jean-Claude Trichet.
Merci beaucoup. Je transforme mes questions en très brèves remarques. D'abord, puisque nous nous confessons tous, je suis fils et petit-fils de professeur de latin grec, ce qui ne m'a pas empêché de regretter de n'avoir pas fait plus d'allemand et d'espagnol dans mes fonctions ultérieures. Deuxièmement, à Jean Tullard et à vous-même, madame, je dirais, il n'y a pas que la matrice impériale pour la France. Il y a la matrice républicaine romaine. Et la Révolution française est complètement nourrie de la République romaine, me semble-t-il. C'est pour nous une matrice fondamentale. Et puis, troisième remarque, j'ai été très frappé par ce que vous avez dit sur le fait, alors peut-être vous ai-je mal compris, qu'il y avait une différence entre l'Europe du Nord, qui était plus pro-grec, et l'Europe latine, qui était peut-être plus latine et romaine. Et on rejoint les travaux de notre président sur la voie romaine et l'articulation entre la civilisation grecque et la civilisation latine. Et je m'arrête là.
Bien. Bon, je ne résiste quand même pas au plaisir d'une petite observation. Il est amusant qu'on considère souvent que l'étude des langues anciennes serait réactionnaire. Il y a un passage dans le Léviathan de Thomas Hobbes. Hobbes, qui était lui-même un helléniste de très grande qualité, il a traduit Thucydide, et pour quiconque s'est frotté à Thucydide, on sait que ça n'est pas du millefeuille. Eh bien, Hobbes dit, si les gens n'acceptent pas la légitimité du pouvoir du roi, c'est parce qu'ils ont fait des langues anciennes, et donc qu'ils rêvent de la République romaine, qu'il rêve de la cité démocratique d'Athènes, et donc c'est très dangereux. On trouve d'ailleurs quelque chose d'analogue chez Taine, dans les origines de la France contemporaine, lorsqu'il fait remarquer que les grands révolutionnaires, enfin, qui envoyaient leurs prochains se faire raccourcir allègrement, enfin, ils les envoyaient allègrement, ce n'est pas les gens qui se faisaient raccourcir allègrement. Eh bien, c'était des gens qui avaient une culture classique et qui raisonnaient dans les cadres étroits, mais précis, rigoureux et impitoyables que la culture classique leur avait communiqué. Donc, dire que les langues anciennes seraient réactionnaires, c'est assez amusant pour qui a un petit peu de recul. Voilà. En tout cas, merci encore infiniment pour cette excellente expérience. Bien, je vous rappelle. Voilà.
Il y a un comité secret, s'il vous plaît, ne partez pas. Enfin, les académiciens.